Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovants, communément appelés SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces et histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Un grand plaisir cette semaine de m'entretenir à nouveau avec Max Trottier de chez Devolution. Quoi dire d'autre que my God, qu'ils sont généreux de lever autant le rideau de comment ça fonctionne dans leur entreprise. Et je salue leur philosophie car à ma connaissance, c'est une des startups de produits à succès au Québec qui a le plus d'ouverture à aider les autres startups, particulièrement en étant complètement transparent et public de comment ça se passe à l'interne. Donc, Max prend le temps en long et en large de nous expliquer les différents outils technologiques qu'ils utilisent, autant pour le marketing, mais on a quand même élargi un peu plus loin, donc pour les autres équipes dans son organisation. Donc, du bonbon pour ceux qui se demandent quels outils peuvent utiliser une startup à succès telle que Devolution. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast. Maxime Trottier, VP Vente et Marketing chez Devolution. Merci d'être encore une fois avec nous. Comment vas-tu, Maxime, aujourd'hui?
Ça va très bien. Encore une fois, au Six Stick, notre première fois, on parlait notre cinquième fois maintenant sur le podcast. Puis je suis encore aussi un peu stressé encore, puis c'est normal, je pense. Mais ouais, très content d'être là.
On est super content que tu sois avec nous. On a toujours eu à date des bons feedbacks des épisodes qu'on a eu avant. Puis si vous n'avez pas écouté d'autres épisodes avec Max, allez-y, épisode 16. On s'est lancé la balle sur 15 cas concrets d'utilisation là, de ChatGPT pour le marketing. L'épisode 18, comment que la gang chez Devolution sont passés de 8000 à 800 000 utilisateurs en 10 ans. La 35, on parle de RevOps, vraiment un concept que vous écoutiez. Et même chose avec l'épisode 39, le concept de Bowtie, un nouveau funnel de vente là, que Devolution utilise. Mais Max, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, peux-tu nous expliquer c'est quoi Devolution, c'est quoi les produits que vous avez? Vous en êtes rendu où pour la business avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui?
Oui, en quelques minutes, Devolution, firme de logiciels informatiques en cybersécurité des sécurité d'information au Québec. On a une présence qui est mondiale maintenant, ça fait plusieurs années maintenant, mais 800 000 utilisateurs un peu partout dans le monde. On offre des solutions de gestion de connexion à distance, gestion de connexion, de gestion de mots de passe et d'accès privilégié. Donc, une ensemble de solutions qui permettent de gérer vos mots de passe, en commençant par vos mots de passe pour accéder à un site web jusqu'aux accès privilégiés de vos départements TI et de vos, par exemple, si vous faites appel à un gestionnaire de service, là, un peu comme avec Joe chez OpenMind, donc on peut gérer les accès aussi de l'externe vers votre entreprise. Donc, on vient sécuriser l'accès et les mots de passe de votre entreprise de A à Z. Voilà. Puis mon rôle à moi, que tu l'as dit, vice-président vente et marketing. Maintenant aussi, je chapeaute le département du support technique de succès client chez nous. Donc, on est rendu, comme on disait tantôt, avant l'enregistrement, une soixantaine dans l'équipe qui gère l'aspect tout ce qui est client chez nous, chez Devolution. Voilà. Puis ça nous fait plaisir encore d'être là aujourd'hui, encore une fois, puis partager un peu notre expérience à travers les ans. Devolution est là depuis maintenant plus de 12 ans, en 2010, la première première version commerciale de notre logiciel phare qui s'appelle Remote Desktop Manager. Puis maintenant, sur notre journey, ça nous fait plaisir de partager un peu nos expériences, où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va aussi. Voilà, on est très content d'être là aujourd'hui.
Et si jamais vous passez dans le coin de la Valtrie, arrêtez de voir ça. Ben c'est oui. Les Gaulois de la technologie en dehors de Montréal.
On est dans notre village.
De 32 cents à peu près, je pense, dans
Ouais, pratiquement 200. Puis là, on est en pleine rénovation encore. C'est notre, écoute, je me souviens plus du chiffre exact, troisième ou quatrième agrandissement en 5-6 ans maintenant. Puis écoute, là, on peut pas voir, là, mais de la machinerie ici, on plante des pieux. On a 115 pieux à rentrer dans le sol. Puis c'était drôle en fin de semaine parce qu'il y avait un post sur Facebook dans le village, ça, la Valtry, puis les gens se demandaient. Donc, j'entends des cloches d'église depuis deux semaines. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis finalement, David Hervieux, notre président fondateur, qui a répondu, c'est pas des cloches d'église, c'est nous chez l'Évolution qui sont en train de planter des pieux avec de la machinerie là, ici en arrière. Là. Mais c'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu de bruit, mais il faut ce qu'il faut. Puis ça va, dans deux semaines, c'est terminé. On va commencer à bâtir les fondations. Mais écoute, pratiquement 50 000 pieds carrés qu'on a grandi encore là, cette année. Fait que, on devrait avoir de quoi de bien passer nous voir sur la Valtry, pour ceux qui savent c'est où. Sinon, on est très, très accueillant. Je
pensais que tu t'en allais me dire que David avait acheté l'église. Parce que quand vous allez passer là-bas, vous allez voir, c'est impressionnant. Un complexe qu'ils sont en train de construire, mais il y a quand même eu des acquisitions de terrain et de propriétés autour ouais. pour accueillir des gens, accueillir des stagiaires. Fait que c'est,
exact.
C'est, quand on va vous voir, là, c'est un, inspirant, puis deux, c'est impressionnant. Fait que n'hésitez pas à aller les voir, à aller jeter un petit coup d'œil si vous passez dans ce coin-là.
Tout à fait. Nous en, ça va nous faire plaisir.
Donc, aujourd'hui, on parle du stack d'outils marketing chez Dévolution. Vous avez fait quand même un bon chemin dans les dernières années. On avait eu une discussion hors d'onde de dire, Max, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? C'est quoi les apprentissages? Y a-t-il des choses qu'on pourrait inspirer, éduquer ou même éviter là, des embûches pour certaines personnes qui développent leurs produits techno? Et comme à l'habitude, Max me dit, ben écoute, on va en jaser, on va en faire un podcast, on va partager à cœur ouvert nos wins, nos fails, puis où est-ce qu'on en est rendu là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on veut partager avec vous. Fait que Max, je te lance le micro à l'instant, si tu veux nous introduire un petit peu, peut-être de partir, je sais pas si tu veux partir de loin ou partir d'aujourd'hui,
ouais,
reculer à ton choix.
Pas, écoute, si on veut faire un petit step back de où est-ce qu'on vient, effectivement, notre stratégie, tout ce qui est marketing chez nous, que j'appelle avec un grand M, là, est supporté principalement par une stratégie qui est inbound marketing, donc de liens entrants chez nous de façon très organique par les sites de recherche, par contre, en générant du contenu, distribuant du contenu à travers différents channels. Puis pendant longtemps, on a géré chez nous avec un CRM que vous connaissez tous, qui était fait par Dévolution pour Dévolution, donc un système qui était fait in-house. Puis bon, on est arrivé à la limite. Je te dirais 2018-2019, on arrivait pas mal à la limite du système. Fait qu'on a commencé à regarder ce qui se faisait sur le marché, premièrement en termes de gestion de leads, là, puis gestion de campagne de marketing. On a essayé une couple d'outils. Dans le temps, là, pour donner un exemple, on recule en 2013-2014. On avait regardé HubSpot, par exemple, que vous connaissez sûrement, puis HubSpot était extrêmement cher pour le volume de leads qu'on générait, puis le nombre de contacts qu'on avait à manager dans notre BD. Puis dans ce temps-là, bon, le timing, l'argent, c'est sûr, on était plus en mode startup, donc on avait décidé de continuer le développement de notre propre plateforme. Aujourd'hui, ces outils-là sont démocratisés de plus en plus, c'est beaucoup moins cher que c'était dans ce temps-là. Puis nous, ben là, on a commencé à faire une couple d'études, on avait regardé des solutions open source dans le temps. On avait regardé, bon, HubSpot, Marketo, Eloqua. On avait regardé Salesforce. Grosso modo, la plus grosse plateforme chez nous, là, les trois départements que je t'ai nommé tantôt, qu'on chapeaute, là, vente, marketing, support, on utilise tout le main stack, c'est-à-dire, à la base, c'est Salesforce qui drive toute notre customer journey chez nous. Pour plusieurs raisons, tu sais, c'est tout le temps des use cases différents selon la plateforme, tu sais, Salesforce va être bon chez nous, c'est pas nécessairement bon ailleurs, évidemment. Fait que c'est très bipolaire comme opinion. Souvent, les gens vont dire, oh, Salesforce, c'est très extrêmement compliqué. Oui, ça l'est, c'est cher aussi. Oui, ça l'est aussi. Par contre, au volume qu'on gère ici en termes de lead, en termes de contacts à gérer dans nos plateformes, ça faisait très du sens d'aller avec un outil comme Salesforce qui nous permettait d'avoir une grande latitude à savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'outil. Comment on peut aussi le moduler, le configurer pour nos propres besoins. Donc, on est allé avec la plateforme Salesforce. Puis, je dirais que on avait parlé sur un autre podcast, mais grosso modo, le gros, tu sais, lessons learned, là, la gestion du data dans vos outils de gestion de clients, garbage in, garbage out, comme on dit, c'est-à-dire très faire extrêmement attention avec qu'est-ce qui est rentré dans vos BD clients, parce que qu'est-ce qui va ressortir après en termes de data, en termes d'analyse, de rapport. Très difficile après ça à suivre sur ces chiffres-là si vous n'êtes pas à 100% confiant de ce que vous avez rentré dans la machine. Donc, une des leçons qu'on a apprises, c'est que au fil du temps, en utilisant notre propre CRM, par exemple, on avait loadé notre système client de toutes sortes d'informations qu'il fallait faire le clean-up d'abord et avant tout. Puis ça a pris facilement un an de tout cleaner le data avant de commencer à dire, bon, on importe ça dans Salesforce.
Et j'ai plein de questions pour toi, Max, par rapport à Salesforce. Puis le choix d'aller avec Salesforce, je suis moins connaissant avec ce stack-là, mm-hmm. Salesforce, obviously. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un écosystème de différents logiciels que vous utilisez. Là. Il n'y a pas juste le CRM Salesforce. J'imagine, il y a-tu des éléments que vous avez été chercher du marketplace, que vous avez intégré? Tu sais, comment ça fonctionne dans l'écosystème de Salesforce?
Il y a beaucoup de modules. Là. Dans Salesforce comme tel, on utilise beaucoup, beaucoup de modules native Salesforce pour ce qui est du forecast, du revenue intelligence, par exemple, au niveau du marketing, ce qui était Pardot avant est rendu maintenant la suite complète marketing chez Salesforce. Grosso modo, je te dirais que dans nos équipes, là, on a à 90% c'est le stack Salesforce qu'on va utiliser. Après ça, par exemple, gestion des agendas, on va utiliser Calendly pour tout ce qui est customer facing, pour gérer les différents agendas des différents agents, par exemple. On utilise un soft phone au niveau du support et des ventes qui s'appelle Bria, qui est connecté directement dans Salesforce aussi. Ensuite de ça, on va utiliser, grosso modo, j'essaie de rapidos, les modules qu'on utilise qui sont externes à Salesforce. Au niveau finance, on travaille à mettre en place toute la suite NetSuite pour ce qui est le billing. Donc, c'est NetSuite qui va être du côté financier pour tout ce qui est gestion des revenus, gestion des rapports financiers, etc. Il y a une partie pour notre e-commerce plateforme qui est encore gérée chez nous in-house. Donc, c'est notre plateforme d'e-commerce qu'on utilise dans Salesforce pour générer les licences, les quotes, les invoices. C'est notre espèce de CPQ à nous autres, là, c'est-à-dire un outil de gestion, de création d'invoice quote. Ça, c'est nous qui le gérons, qui est plugé directement dans Salesforce. Ensuite, grosso modo, je te dirais qu'en termes de plateforme, c'est pas mal ça qu'on utilise. On n'a pas tant d'outils externes à part ceux que je viens de te nommer qui se connectent directement dans Salesforce au niveau, on va dire, front-end. Dans le back-end, c'est sûr, pour gérer les différents business process, on utilise Elements.cloud pour gérer tout l'aspect business, Gearset pour l'aspect déploiement au niveau de l'architecture, au niveau du dev Salesforce. C'est moins intéressant un peu pour nous aujourd'hui, mais grosso modo, c'est pas mal ça qu'on utilise chez nous en termes de plateforme qui est le core là, de notre business vraiment.
Quand vous avez fait ce processus-là de sélection, j'imagine, il y avait HubSpot qui était dans la liste peut-être des prétendants. Il y avait quoi d'autre comme option que vous regardiez?
Ouais, dans le temps, on regardait. On a commencé le projet début 2020 avec Salesforce. Fait qu'en 2019, on regardait surtout les différents, comme tu dis, les différents compétiteurs. Nous, on va regarder, bon, HubSpot, Marketo, Eloqua, Salesforce. Puis c'est pas mal ces quatre-là là, qui étaient... Nos candidats qu'on regardait. Une couple de calls, évidemment, avec une couple de vendeurs là-dedans. Rapidement, moi, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais le fun avec Salesforce, c'est que peu importe ton pain ou ce que tu veux intégrer ou ce que tu veux faire, il y a une solution. L'écosystème est énorme, right? Fait que, tu sais, pour moi, j'étais plus dans ce que je sais que je sais pas, tu sais. Je sais pas encore ce que j'aurai de besoin dans 2 ans, mais je sais que cette plateforme-là va me permettre 90% d'avoir ce que j'ai de besoin, ce que j'étais pas aussi confiant avec les autres plateformes par rapport à Namely, le HubSpot que tu viens de dire. Puis HubSpot, il a sa raison d'être amplement beaucoup plus simple d'utilisation au niveau du marketing, plus simple aussi de gérer des campagnes, etc. Pour nous, j'avais une équipe en interne aussi pour gérer la plateforme, donc j'avais pas besoin que ce soit si user-friendly ou marketer-friendly que ça non plus. J'ai des gens ici en interne, j'ai une équipe dédiée justement à la gestion de Salesforce, fait que ça, c'était déjà un plus qu'on avait chez nous dans le temps. Puis aujourd'hui, on a des spécialistes qui viennent de directement de l'écosystème Salesforce qui travaillent chez nous directement. Donc, on a l'outil et les architectes derrière pour bien faire fonctionner. Fait que ça, c'est un gros plus pour nous. Ça nous permet effectivement de le moduler tel qu'on veut l'avoir.
Puis, je suis curieux de rentrer un petit peu plus loin dans l'aspect HubSpot parce que souvent, quand on voit les business de SaaS qui, généralement, leur moteur de vente vient du inbound, du SEO, souvent, ça va être relié avec des techniques qui ont été apprises dans l'univers de HubSpot.
Mm-hmm.
Donc là, il y a comme un choix des fois par défaut qui se dit, je vais aller voir là. Outre le fait peut-être que l'écosystème était peut-être perceptiblement moins complète que Salesforce.
Mm-hmm.
As-tu des choses que tu as vues ou tu as perçues qui auraient pu avantager ou désavantager autant Salesforce qu'HubSpot?
Pas précisément, non. Tu sais, HubSpot, on les connaît bien par rapport aux travaux des fondateurs, right? Avec tout ce qui est inbound marketing, mais ils ont pas mal mis la stratégie sur la map. Et en mettant tout cet aspect-là, ben c'est sûr que leur but était de vendre des plateformes HubSpot. Donc les principes, on les a gardés là. C'est vraiment pas ça l'idée là. Les grands principes, on les a gardés. On les a encore en place chez nous pour ceux qui nous connaissent depuis une couple d'années là. Très orienté encore inbound marketing. Je te dirais que vraiment l'aspect écosystème dont on vient de parler était un gros point, un gros facteur. Il y avait aussi l'aspect volume, c'est-à-dire qu'on avait un énorme volume de prospects, de leads, de visites sur nos sites web. On disait tantôt, notre marché mondial, donc on doit être en mesure d'avoir une bonne visibilité partout dans le monde sur ce qui se passe sur nos sites. Fait que j'avais le volume, le mass market que j'avais besoin d'atteindre. C'est un outil comme Salesforce qui nous permettait de le faire en termes de gestion de data et de quantité de data à gérer. Ce que je retrouvais moins ailleurs dans les autres plateformes. Fait que, grosso modo, c'était mes deux grosses raisons.
Sur l'aspect pricing, est-ce qu'on parlait que c'était à peu près similaire?
C'est un peu plus cher, là, tu sais, en toute honnêteté, Salesforce, là, pour ceux qui connaissent l'environnement, c'est sûr que c'est, tu sais, si on a des grosses discussions à travers ça, parce que ça coûte cher. C'est un des meilleurs SaaS vendors au monde, hein, Salesforce. C'est peut-être même le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a du product-led growth à son meilleur, hein. C'est, je veux avoir ce module-là, ben là, whoop, 80$ de plus par mois par user. OK, ça a l'air intéressant, c'est le fun. Ah, OK, tu navigues un peu, un 3, 4, 5 mois dedans. Hey, regardons ça, il y a ça aussi. Oh, un autre 80$. Puis tu te réveilles 6 mois, un an plus tard, pouf, t'es rendu à 300, 400 000 de bilabs chez Salesforce. Fait que, tu sais, c'est un modèle d'affaires qui est très classique, là, chez nous en techno aussi, là. Puis c'est drôle parce qu'on se dit, tu sais, c'est tough, le licensing, tu sais, c'est un des grands pains chez Salesforce. Ça devient extrêmement complexe à certains niveaux parce qu'il y a beaucoup d'items à gérer, beaucoup de modules qui fait quoi. La gestion des users là-dedans aussi. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu la nature de la bête, même en techno en général. Nous, le propre licensing, on rend ça le plus simple possible, évidemment, pour nos users. Mais il y a un aspect qui est très modulaire là-dedans. Puis c'est très product-led. On pourrait faire un épisode là-dessus, d'ailleurs, tout ce qui est product-led growth, à savoir, quand tu commences à travailler dans une plateforme, comme chez vous, avec Berrycast, par exemple, comment je réussis à aller atteindre un marché à travers l'outil même. Donc, je reçois un vidéo à travers votre plateforme de Berrycast. Comment que j'onboard ce nouvel utilisateur-là? Vous avez cette discussion-là chez vous, je suis persuadé. Donc, pour venir un peu à ce qu'on disait, c'est que c'est un modèle qui est très, vous allez entendre souvent, c'est de le boire dans le tordeur, puis après ça, c'est difficile à s'en sortir. C'est vrai, faut juste être très intelligent là-dedans puis discipliné dans ce qu'on rajoute dans la plateforme. Mais all in all, nous, on tire beaucoup de valeur de ça. Puis c'est pas un pitch de vente pour Salesforce du tout. En fait, ce que je dis, c'est utiliser ce que vous voulez, ce que vous êtes le plus à l'aise. Moi, je prends ta question en toute franchise honnêteté, pourquoi on est allé vers Salesforce, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment de votre use case, right?
Puis, tu mentionnais que c'était cher, voire très cher. C'est curieux de t'entendre précisément, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est quoi cher ou très cher dans
une
vision?
Ouais, c'est une très bonne question. Puis, tu le sais, on a toujours été très, très ouvert, là. J'ai reçu... J'ai fait le saut, là, 2 semaines, j'ai reçu un bill de 126 000 piastres US que j'avais de la misère à... Il y avait de quoi que j'avais mal compris. En fait, bref, je ne veux pas entrer dans le détail trop, mais ils nous billent à des cycles de 6 mois. Donc, quand au fil de l'année, si tu veux, on rajoute des modules, etc. Toujours, tu sais, le budget est respecté qu'on se donne au début d'année, ça, c'est pas un problème. C'est plus que quand tu rouvres ton laptop un matin puis tu as des gens de finance qui t'appellent pour te dire « Hey, j'ai un bill de 126 000 piastres US de Salesforce. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Disons que le vendredi matin, je me suis posé... j'ai fait un peu le saut. Mais all in all, je te dirais qu'on est rendu à... parce que chez nous, il y a l'aspect tout ce customer journey qu'on utilise Salesforce. Mais j'ai aussi tous mes devs chez nous, mes PM, PO, name it, là, les devs, ils ont toute une licence Salesforce aussi pour entrer en contact avec le client puis suivre les activités des différents clients. Quand il y a un feature request au support, ben c'est un case qui est géré dans Salesforce. Puis ce case-là, si tu veux avoir accès au client, à l'activité de ce client-là, c'est quoi l'email history? On a pris la décision il y a 2 ans de tout le monde chez nous a une licence Salesforce, du stagiaire en dev jusqu'à un product manager chez nous. Tout le monde a une licence qui nous permet d'avoir accès à ces historiques-là avec les clients. Fait que Ce que ça veut dire sur environ, on va dire, 180, disons 200 employés, il doit y en avoir facilement 120, 125 qui ont une licence Salesforce chez nous. De ce 125, 130-ish, il y en a une soixantaine qui est directement reliée au Customer Journey. Donc, c'est des gens qui sont des heavy users de Salesforce. Le reste, c'est tous des devs, comme je te dis, qui ont accès surtout à la partie client pour pouvoir savoir un peu quand il y a un feature request, bon, ça vient de où, etc. Fait qu'on regarde une facture totale là, chez nous pour Salesforce, ça représente entre 350 000 et 400 000 piastres par année qu'on envoie chez Salesforce.
Donc, on parle à peu près d'un entre 3 à 4 000 par user par année à peu près que ça coûte.
Exact,
au final, dans la profondeur de l'intégration que vous avez présentement, parce que j'imagine que vous êtes rendu loin puis vous avancez tout le temps rapidement. Fait qu'on va se reparler dans 6 mois. Puis
moi, on sera rendu à 1 million, c'est pas là, mais non, ça en fait, je pense pas là. Mais
pour ceux qui nous écoutent, il faut toujours mettre ça sur le volume d'affaires aussi. Là, je pense que vous êtes rendu...
Tout à fait. Puis n'oublie pas, notre modèle d'affaires, moi, c'est un modèle d'affaires qui est très orienté, comme je te disais tantôt, tout est une question de business model puis une question de licensing ton modèle d'affaires. Parce que moi, j'ai pas de rep qui s'en va sur la route. J'ai pas de cellule d'affaires. J'ai pas de bureau à Boston avec une vingtaine de staff là-bas à supporter. J'ai pas d'overhead, c'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est pour certains business ou pour d'autres que ça, c'est irrelevant, mais j'ai pas de... Faut que mon pooling en interne soit extrêmement performant dans le but de bien faire mon travail parce que j'ai pas de footprint global physique. C'est ça, moi, mon gros gain à avoir, c'est un système qui est flawless, qui donne une visibilité importante sur ce qui se passe dans notre pipeline de vente, par exemple. Fait que moi, mon cash que j'investis, c'est pour m'assurer que ce système-là fonctionne A1. On a parlé de RevOps dans notre dernier épisode. J'ai une équipe de Sales Enablement qui s'occupe principalement, leur job, c'est de s'assurer que le data qui est rentré dans la plateforme soit à 100% accurate. Et quand que je sors un rapport et que je prends une décision sur du data, je suis à 100% sûr que c'est le bon data que je vois là dans ma face, que j'ai le bon chiffre. Fait que j'ai une équipe qui s'occupe de ça chez nous. D'ailleurs, on est en train de chercher un data analyst, là, si jamais certains d'entre vous sont intéressés. On cherche un data analyst avec l'équipe de RevOps. Donc, l'appel est lancé.
On va mettre le lien de la page d'emploi dans les notes de l'épisode.
Excellent.
Super beau lieu de travail. N'hésitez pas à postuler ceux qui nous écoutent et que ça les interpelle. Donc, au final, là, si je te pose la question, Max, est-ce que t'en as pour ton argent?
Oui, on en a pour notre argent. Comme je te dis, c'est j'en ai pour mon argent. On l'utilise à fond. On a une équipe, comme je te dis, ils sont 4 maintenant à travailler exclusivement à mettre en place tout ce qui est un admin Salesforce, un architecte, 2 devs Salesforce. Donc, oui, j'en ai pour mon argent à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas click and play, right? C'est pas une plateforme qui est facile, là. D'aucune façon, là. Ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend du travail, ça prend des gens pour qui, au niveau business, de bien analyser le besoin d'affaires pour que ça soit clair au niveau de l'architecture, comment on va le faire après. Donc, oui, j'en ai pour mon argent, ça, c'est sans aucun doute très satisfait de ce qu'on a présentement. Maintenant, il y a un paquet d'autres outils qu'on utilise aussi dans d'autres départements, au niveau marketing, entre autres. Je sais qu'on avait parlé ensemble rapidos, là, mais on a parlé dans un épisode précédent, je ne me souviens plus lequel, mais tout ce qui est Google Analytics avec GA4 maintenant, qui est une nouvelle version de Google Analytics. Ça, c'est notre première vitrine sur ce qui se passe sur mon site web. Donc, ouais, vas-y, je te vois.
Puis, tout le stack au niveau du web, vous utilisez quoi comme plateforme web? Est-ce que c'est custom made? Parce que là, tu parlais d'une intégration avec Salesforce. Est-ce que c'est des outils de Salesforce? Je suis curieux d'entendre un peu là-dessus. Là.
On a une équipe, nous, dédiée à 100% en développement web chez nous. Donc, tous nos sites web sont gérés ici en interne. On a, bon, le pont qu'on peut faire avec Salesforce, c'est toutes les forms sur site web. Ils roulent directement les objets. C'est directement des objets custom ou non dans Salesforce. Fait que quand tu demandes un trial, c'est directement relié à un funnel de vente chez nous et au marketing et aux ventes, avec différentes tracks selon ce que t'as, selon le genre de client que t'es, right? C'est quoi ton persona, d'où tu viens, c'est quoi le type de business. On qualifie l'ensemble des trials qui rentrent chez nous, les gens de vente ou les CSR, CSM, c'est-à-dire les gens de vente, ils vont faire une qualification de ces trials-là. Fait que chacun a leur track dédié dans Salesforce, selon c'est qui. Au niveau web, plus pur, je comprends ta question, on utilise un générateur de site web statique qui s'appelle Eleventy. Ou Eleventy, là, je suis pas sûr de me présenter. Si on l'appelle Eleventy, donc 11ty.dev, et notre générateur de cette statique au niveau de la performance extrêmement satisfaite de l'outil. Ça génère un site statique, en fait. Donc, c'est pas un site dynamique qui est tout le temps en train de rechercher, de reloader sa cache pour voir s'il y a un changement. Donc, c'est extrêmement performant. Si vous voulez voir un peu à quoi ça a de l'air, blog.devolution.net. L'ensemble du blog est sur Eleventy maintenant. On travaille présentement à mettre l'ensemble de nos sites web aussi. Extrêmement responsive. Loading time quasiment à zéro. Donc, ça, c'est un des outils qu'on utilise au web. Ensuite, on utilise pour notre...
Vas-y. J'imagine que vous avez fait ce choix-là pour une question de SEO pour se donner un petit boost au niveau de la rapidité, non?
Ouais, exact. Deux choses. Il y a toujours l'expérience client chez nous qui est d'abord et avant tout, est-ce que c'est bon pour le client? C'est-à-dire qu'avant même de penser, est-ce que ça va me permettre de mieux performer sur les plateformes de recherche SEO, SEM, par exemple? Je pense à, est-ce qu'un client en TI chez nous, quand il va arriver sur le site web, est-ce qu'il va y trouver son compte? Est-ce qu'il va avoir une expérience qu'il peut relier, là? C'est-à-dire qu'il va voir, il va faire, oh, c'est sharp, c'est cool, tu sais. Donc, première affaire, c'est sûr que c'est l'expérience client qui comptait. Ça nous permettait, nous, on pourra mettre le lien, d'ailleurs, dans la description, mais ça a été un choix chez nous, niveau technologique, qui était extrêmement efficace et performant, entre autres pour l'expérience client, tu l'as dit, au niveau du Search Engine Optimization, d'avoir un niveau de performance de cette manière-là, ça a été super payant pour nous autres. Puis la plateforme est très stable, ça va très, très bien. Par ensuite, on a mis un Content Management System, un CMS, pour ceux qui connaissent un peu plus. On avait Strapi qu'on utilisait, Strapi.io qu'on a utilisé pendant quelques temps. Maintenant, on a switché à Cloud Cannon. On pourrait mettre le lien aussi, si tu veux, dans l'épisode. Cloud Cannon, qui est un CMS qui te permet... En fait, tes développeurs web, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont créer des components dans ton site web qui sont irréutilisables partout en grandeur. Puis tes gens de marketing, tes gens de produits peuvent directement interagir avec le site web à travers Cloud Cannon. C'est-à-dire, si tu as un nouveau feature, par exemple, que tu veux mettre sur le site directement dans le CMS, tu peux aller l'ajuster puis il va être live. Nous, on a des nightly builds, là, donc on peut... Les gens de marketing chez nous, de sales enablement, de produits peuvent aller updater le site web sans devoir passer par tout l'aspect du web development là, avec des tout ce que ça implique là, au niveau du HTML, entre autres. Là. Donc, tant que le component est bien segmenté puis que le component il vit de lui-même, ben après ça, les gens peuvent aller changer le contenu très facilement.
Je suis curieux sur l'aspect performance SEO. Quel outil que vous utilisez pour vous? Un, choisir les mots-clés, mm-hmm. voir, vous en êtes dans les rankings, les dashboards par la suite. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des outils là-dessus que tu peux partager un petit peu, Max?
On utilise SEMrush pour venir se benchmarker avec l'ensemble de l'industrie, nos compétiteurs. Il y a une foule d'outils qu'on utilise aussi. Là, on utilise beaucoup Google là, par rapport au Google Ads, entre autres. Les noms m'échappent, mais tout ce qui est au niveau reporting, Google Ads Studio qu'on utilise pour l'aspect reporting, qui on va ramener ça dans un grand projet cette année. Bon, on en reparlera ça aussi éventuellement, mais de ramener tout notre aspect dashboarding dans Tableau, qui fait partie aussi de la famille Salesforce, mais qui est un peu un Power BI, là, pour ceux qui connaissent plus Power BI de Microsoft. On veut, là, on se retrouve présentement à avoir un paquet de tableaux de dashboard dans un paquet d'outils différents, mais là, il faut ramener ça à un outil central pour avoir une meilleure visibilité. Donc, on utilise toute la suite Google pour ajuster tout ce qui est, keywords, etc., etc. Un que tu connais très, très bien, avec qui on travaille, David Carl, qui nous aide beaucoup là-dedans. À mettre en place une stratégie SEO, SEM. Puis c'est David là, qui nous fournit un paquet d'outils. Là, si, ça vaudrait peut-être la peine même de l'amener sur un podcast s'il accepte l'invitation un jour. Là, il y a un full d'outils qui nous aide de son côté à bien comprendre avec quoi on fait affaire avec Google. Puis c'est quoi nos... C'est, avec Google, c'est très facile de dépenser beaucoup de cash pour rien, mais il y a une manière de le faire pour dépenser de l'argent intelligemment là-dedans, sauf que ça demande beaucoup de travail d'investigation. Fait qu'il faut être en mesure de bien cibler ton persona, ton ideal client profile, d'aller mettre de l'argent vraiment ce que ça compte là. Fait que voilà, c'est un peu ce qu'on utilise au niveau du marketing.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Et marketing égale un paquet de projets à faire en parallèle, qu'il faut suivre, qu'il y en a que c'est du court terme, du long terme. Avec quel outil vous gérez votre liste de projets, vos priorités, suivre peut-être des sprints que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez?
Une très bonne question. Au niveau du tout ce qui est business, là, enlever l'engineering, tout ce qui est business, on utilise Monday, qui était autrefois, le nom m'échappe encore, là, mais ça a été changé, le brand a été changé une couple d'années. On utilise Monday.com pour la gestion de projet. On utilise la suite Jira aussi, notamment Confluence pour tout ce qui est knowledge base, outil de travail en termes de contenu. Là, tout le monde utilise Confluence chez nous qui est devenu notre espèce de d'outil de documentation. Donc, par exemple, tous les blogs sont là-dessus. On travaille en équipe sur les différents blogs dans Confluence directement. Donc, quelqu'un qui change, on a tout l'historique, on a toutes les dernières versions. Fait que tout est dans Confluence du côté documentation, knowledge base, c'est dans Confluence. Monday, gestion de projet. Niveau de l'engineering, utilise Jira, en fait, pour tout l'aspect ticketing, gestion de projet, gestion de portfolio, gestion des features, des stories. Tout est dans Jira du côté de l'engineering. Puis nous, on utilise, comme je te disais, Monday, Confluence, principalement pour la gestion de projet chez nous avec les différentes équipes.
Avez-vous vu ou commencé à intégrer des outils qui se rapprochent plus du stack AI? Parce qu'on le voit, exemple, nous, de notre côté, on commence à explorer justement de faire les montages, que ce soit vidéo, audio, avec un petit peu d'aide de l'AI, la transcription aussi, l'AI nous aide, ChatGPT, on a fait un épisode juste là-dessus. Est-ce que tu as des petites choses qui apparaissent dans l'écosystème de ton côté? Là?
On utilise pour la traduction DeepL, D-E-E-P-L, DeepL, qui est un outil de traduction ultra performant dans notre cas, pour tout ce qui est aide en ligne, site web. Même au niveau des blogs, entre autres. J'ai des gens ici qui travaillent à la traduction, mais avec DeepL, il va faire 70 à 80 de la job pour eux. Ensuite, l'être humain vient finaliser les projets pour être sûr que, bon, il n'y a pas eu de petits... L'AI est bon, mais il n'est pas non plus parfait, comme nous, d'ailleurs. Là, c'est pour ça que je suis très pour l'AI, parce que c'est les gens, ah oui, mais c'est pas parfait, non, mais il n'y a pas d'humain parfait non plus, puis pourtant, on réussit à faire ce qu'on fait quand même. T'sais. Donc, l'être humain est là pour venir finaliser ces projets-là. Fait que, au niveau de traduction, là, DeepL, qui est un très, très gros projet chez nous en termes de localisation de contenu, dont notre site en ligne, comme je disais, nos blogs, nos sites web. Et on utilise ChatGPT. Là, j'ai des projets que je veux l'amener in-house chez nous ici. Je veux l'avoir installé pour qu'il puisse crawler notre propre doc. Là. Mais grosso modo, tout le monde est pas mal au goût du jour en termes de gestion de avec ChatGPT. On avait fait 15 cas, on est rendu à 30, 40, 50 cas 6 mois plus tard, facilement. Là. Fait que, grosso modo, on est encore, tu sais, je te dirais qu'on n'est pas en avant de la vague, on suit ce qui se fait. On est très au courant de ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'on est des heavy users? Non, je peux pas te dire qu'on est à deux pieds dedans présentement. On l'a sur le radar, on l'utilise de manière décentralisée selon le département, les use cases. Le grand projet que j'aimerais avoir cette année, c'est justement venir centraliser l'ensemble de la doc à travers l'AI pour que quand on puisse poker nos propres BD, ben que l'AI nous aide à trouver nos propres solutions, en même l'information que nous, on a ici à l'interne. Je crois beaucoup par rapport au service à la clientèle. On parle à Salesforce depuis tantôt, mais il y a un Einstein GPT qui s'en vient. C'est leur module GPT à eux qui s'en vient pour tout ce qui est l'aspect service support client, service à la clientèle. Je donne des exemples très concrets, mais au lieu qu'un client nous ouvre un billet, par exemple, puis qu'il y ait un agent qui doit aller fouiller dans nos KB à nous, dans notre documentation technique pour trouver une réponse, ben je veux que la première réponse qui soit draftée, c'est l'AI qui l'ait accompli parce qu'il est connecté chez nous directement dans nos outils. Puis après ça, ben l'être humain viendra compléter ou valider l'information qu'il y a, je devrais dire. Donc, c'est le projet qu'on a cette année. Mais on n'est pas, en toute honnêteté, transparence, là, on n'est pas à deux pieds dedans en ce moment. J'ai pas de grand projet de déployer pour l'instant.
Vous avez probablement déjà une grande bouchée ou plutôt bouchée à manger que Stacks de Salesforce pour arriver à pleine vélocité. Fait qu'à un moment, on peut pas être non plus partout en même temps.
Ouais.
Pour l'aspect customer service, chat avec les clients, query, ticket, j'imagine, ça passe tout dans l'environnement de Salesforce.
Oui, il y a un pont, tout ce qui est, on utilise Omnichannel de Salesforce pour tout l'aspect de gestion des canaux de communication avec nos clients. D'ailleurs, on a essayé c'est bon, ça. Je crois beaucoup, puis je crois encore, mais je pense qu'on est trop tôt, mais Slack for Sales, moi j'adore, on utilise Slack comme outil interne de communication. Je l'utilise de plus en plus avec des partenaires du monde de l'extérieur de l'organisation. Puis l'année passée, j'avais demandé à l'équipe de faire un petit proof of concept avec les clients, savoir est-ce que les gens sont rendus, au lieu d'échanger des courriels, par exemple, ou d'échanger à travers Salesforce, justement, de communiquer à travers un système de ticketing. Est-ce qu'on serait pas mieux de demander aux gens voir s'ils sont intéressés par parler dans Slack ou Teams, par exemple, de Microsoft? On a fait plusieurs demandes. Il y a eu certains clients qui ont répondu présents. Ils ont dit oui, ça m'intéresse. Mais la majorité est encore non, j'aime mieux qu'on continue à gérer ça par courriel. C'est comme s'il y a une proximité que ce qu'on a senti, en fait, c'est pas scientifique du tout comme étude, là, ce qu'on a senti, c'est cette espèce d'omniprésence-là, les gens sont pas tout à fait confortables avec encore. Qu'un vendeur puisse directement te pigner sur ton Slack ou vice-versa, je pense pas qu'on soit rendu là. T'sais. Donc, c'est un peu ça peut vous servir. On parlait de bon coup, mauvais coup. C'est pas un mauvais coup, c'est juste un essai qu'on a fait, puis on a regardé voir la réponse, mais on n'est pas tout à fait rendu là encore. T'sais. Donc, par rapport à Slack Teams avec les clients. Mais sinon, pour répondre à ta question, le chat en ligne, c'est géré directement dans Salesforce. Ils ont un super beau module qu'on utilise pour gérer quel agent est en ligne. Quand un agent qui doit se mettre offline, il y a un autre agent qui est poké. Donc, il y a une queue qui s'auto-gère comme ça dans Salesforce. On est super, super heureux de ça. Là, ça donne des bons résultats. Grosso modo, c'est pas mal. C'est au niveau du chat. Ensuite, on a une intégration avec Jira. Donc, le case qui est ouvert ou le ticket qui est ouvert dans Salesforce au niveau du customer support, par exemple, il y a un pont qui est fait avec Jira pour l'engineering, en fait. Donc, quand un billet Jira est updaté, par exemple, une nouvelle release, je donne un exemple, tu ouvres un billet chez nous pour un cas X, l'engineering reçoit le billet, règle le problème, leur release une nouvelle version, ben directement dans Salesforce, on est pigné pour dire, ah, tel client, tel case, le problème devrait être réglé dans la version 23.3.xxx. Donc, on a ce lien-là qui existe, qui nous permet d'être beaucoup plus, d'avoir une bien meilleure vélocité que qu'est-ce qu'on avait avant. Où est-ce que là, l'être humain doit pas oublier de contacter le support, qu'il doit pas oublier, lui, de contacter le client et vice-versa. Donc, c'est la machine qui s'en occupe pas à notre place. Là. Puis, c'est très bien fait.
Et là, on parle de marketing. Marketing égale souvent humain. Humain égale gestion de la performance de l'humain et d'élever l'humain. Là, on sort un petit peu plus loin du contexte, mais qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour suivre vos humains, les amener à un autre niveau? On parle d'un bambou de ce monde, d'un lattice de ce monde, des bons vieux fichiers Excel.
On l'utilise, on est en plein déploiement d'un outil qui s'appelle HRWise, qui va être notre SIRH maintenant, notre système de gestion des ressources humaines ici en interne. C'est un grand projet que les gens de RH chez nous sont en train d'accomplir. Donc, notre stack, tout ce qui est, ça va de la demande de vacances jusqu'à la demande de formation, les assurances, etc., là. Ça va être HRWise qui va être notre outil pour gérer tout l'aspect gestion des ressources humaines, qui lui aussi va être connecté à travers différents outils chez nous, dont Slack, entre autres, pour les nouvelles, etc. Mais ça va être, je dirais, à 80% le stack qu'eux vont utiliser. Il y a des projets, je connais moins un peu tous leurs projets, mais je sais qu'ils ont des projets aussi par rapport à tout ce qui est la veille là, au niveau des différents postes, les salaires dans l'industrie, etc., etc. Il y a des plateformes qui existent pour ça aussi, mais all in all, ça s'appelle c'est HRWise qu'on a choisi de ce côté-là au niveau RH. Puis au niveau financier, si tu me permets, on en a parlé rapidement tantôt. On a regardé différents outils aussi pour gérer de façon plus automatisée tout ce qui est création de l'état des résultats, par exemple, aller chercher, bon, exactement au niveau des revenus, annual recurring revenue, par exemple, calculer c'est quoi nos revenus mensuels chez nos clients, etc. C'est NetSuite qu'on a choisi au niveau financier pour gérer la portion plus finance, état financier de leur côté pour gérer ça.
Vous êtes en transfert avec NetSuite ou c'est déjà complété depuis un certain temps?
On est en transfert, on est en plein dedans présentement au moment qu'on se parle. Le projet qui devrait être fini en début 2024 pour un certain jusqu'à un certain niveau. C'est complètement terminé pour autant de 2024 à ce niveau-là.
De chantier en même temps. Vous êtes toujours impressionnant parce que vous les amenez à complétion puis vous en rajoutez d'autres après. Fait que c'est, je me répète, inspirant puis impressionnant en même temps. Bravo d'avancer comme ça. Max, est-ce qu'il y a des outils que tu dis ça n'a pas fonctionné puis faites attention ou du moins c'est peut-être de la manière que vous avez abordé ces outils-là qui étaient problématiques?
Tu parlais tantôt de... je sais pas si c'était nous qui l'avons mal utilisé, mais j'avais beaucoup d'espoir pour les transcripts de meeting, par exemple. Soit avec les clients, soit à l'interne ici. Pour nous, c'est vraiment pas au point encore. Comme je te dis, je dis pas que j'ai la science infuse du tout, la vérité là-dedans. Ça serait peut-être à voir au niveau de l'utilisation, si oui ou non on l'utilise de la bonne manière. Mais pour moi, ça n'a pas répondu du tout à ce que je m'attendais. beaucoup, beaucoup. Ben, tu pourrais en parler peut-être, je sais que vous autres, vous avez des projets aussi de votre côté. Tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler. Mais au niveau de la transcription des meetings, c'était pas encore au point de notre côté. On a regardé Sales Gang, qui fait pas de mauvais job encore une fois, mais qui est pas encore à point au niveau que moi j'espère que ça va devenir. Ceci dit, question de mois, 6 mois, 1 an, ça va être du problème, là. Mais je suis pas encore amplement satisfait des tests qu'on a fait à ce niveau.
Parce qu'on est sur un point de rupture où ce que ça s'en vient bien, mais c'est pas encore parfait. On l'a intégré, nous, dans Berrycast. On a beaucoup de personas qui l'utilisent pour justement filmer leurs vidéoconférences qu'ils ont eues puis que ça paraisse pas, que ça soit enregistré. Puis après ça, ils extraient le transcript pour mettre dans leur propre outil pour souvent une question de légalité, de conformité dans leur industrie. On le voit des gens en assurance, des gens au niveau des courtiers hypothécaires et compagnie, là, qu'il faut qu'ils documentent tout ce qu'ils disent puis ce qu'ils font. Donc, c'est pas des résumés, je pense, qui sont à point pour envoyer aux clients, mais c'est des résumés qui sont vraiment intéressants pour consignation d'informations puis pour s'y référer par après. Fait que c'est pas parfait, c'est pas marché, là, tu sais, parfaitement. Mm-hmm. Mais on voit qu'on est, je pense, sur un point de rupture, ce qu'on va y arriver dans pas long. Comme tu dis, ouais. Le modèle avance tellement rapidement que c'est une question vraiment, même pas nécessairement de mois, mais de semaines avant qu'on y arrive.
Oui. Sinon, dans le même suite d'idées, mais c'est pas tout à fait un fail, mais allez voir ce qui se fait avec Hotjar, que tu connais sûrement, là, pour tout ce qui est recording. On est très dans le UX, UI de vos sites web avec ça. On l'a utilisé beaucoup sur une très courte période de temps, c'est-à-dire que de ma façon de le voir, moi, ça m'a donné un paquet d'informations sur le site web, mais c'est à faire à tous les 2-3 mois, l'arrêter pendant 6 mois, 1 an, peut-être tu recommences, mais de l'avoir là qui roule constamment sur vos sites web, puis d'avoir un full d'enregistrement, tu sais, c'est beaucoup de data analysée, puis s'asseoir, puis regarder, tu sais, très attentivement. Je pense que c'est bon de le faire de manière plus sporadique pour se faire une espèce de LT check sur vos sites web, mais de là à constamment monitorer ce qui se passe, la manière que les gens transigent sur vos sites web. J'ai peut-être un petit bémol à apporter versus le coût que ça coûte. Fait que c'est un très bon outil, ça se dit, mais à utiliser peut-être d'une manière, comme je disais, un peu plus de manière spontanée ou sporadique selon les différents projets que vous voulez tester, mais qui est excellent, vraiment impressionnant. Ceci dit, par contre, un autre bémol qu'on pourrait amener, puis on pourrait en parler ça aussi, tout l'aspect, surtout en Europe, la gestion des cookies sur vos sites web, gestion de la confidentialité, de la vie privée, des outils comme Hotjar, par exemple, qui viennent monitoriser directement la manière que les gens live sur vos sites web, la manière qu'ils interagissent. Ça, il va y avoir des grands changements dans notre industrie. Puis là, je parle de notre industrie au niveau plus marketing, là, dans nos professions, je devrais dire. Quant à comment on gère ces données-là, puis de la manière aussi qu'on va pouvoir le faire, notamment avec Google, entre autres, qui vont être, je pense, d'ici un an ou deux, ça va être très, très, très restreint, le nombre de données que tu vas pouvoir non seulement aller chercher de vos clients potentiels, de vos prospects, là, le temps où est-ce qu'on allait grabber des leads sur un site web à travers un form puis qu'on envoyait du mailing at large, là, c'est pas mal terminé. D'un, les open rates sur ces emails-là, les click-through rates sont en baisse constante depuis 5 à 6 ans. On est beaucoup plus dans l'hyper-personnalisation, je pense. On revient au niveau marketing, là, on revient à un... Dans mon opinion à moi, on revient à un des stratégies qui doivent être focalisées premièrement sur une relation humaine ou aidées par les outils et non pas l'inverse. Où est-ce qu'on a passé un temps depuis 10 ans où est-ce qu'on pouvait... driver l'ensemble d'une communication à travers les outils de marketing automation, entre autres, ça va être de plus en plus difficile à le faire. Fait qu'il va falloir trouver des manières beaucoup plus d'hyper-personnalisation de contenu avec vos clients. Puis il va falloir parler à ces clients-là, je pense aussi, parce que vous n'aurez pas tout cul dans le bec comme on a eu à travers les différents âges du marketing. Là. C'est-à-dire que on pouvait aller chercher exactement c'était qui le persona à travers un différent du retargeting, des cookies, etc. Là, ça va être de plus en plus tough à faire.
Et tu mentionnais l'automatisation. J'ai une question qui me vient en tête. Beaucoup de prospection souvent qui est fait maintenant sur LinkedIn, Facebook Messenger aussi, mais là, c'est un peu plus intrusion à la vie privée. Mais est-ce que vous utilisez des outils pour sortir des listes de prospects sur LinkedIn, la prospection semi-automatisée?
Non.
Est-ce que ce genre non, pas du tout?
Non. J'ai fait des tests dans le temps. Dans ma vision, c'est pas des trucs que moi, j'aime utiliser. Je suis certain qu'il y a plein de monde qui ont du succès avec ce genre d'initiative-là. Ça peut faire partie du mix marketing à quelque part, là, tu sais, d'utiliser certains de ces outils-là pour moi, c'est pas valuable pour ma business. C'est beaucoup d'argent, surtout avec LinkedIn, c'est extrêmement cher pour une stratégie d'affaires qui vise d'abord et avant tout un marché, un volume de marché qui est très élevé. Pour du account-based marketing, où est-ce que tu vas aller signer, par exemple, les gens en retail du nord de l'Arkansas, je peux très bien le voir comment ça peut bien fonctionner. Mais chez nous, c'est pas un outil qui, c'est pas non plus c'est pas dans notre ADN, c'est pas de la manière non plus qu'on veut interagir avec nos gens chez nous, avec notre audience, si tu veux, ou nos gens, nos clients. Fait que, c'est pas de quoi qu'on utilise, non, pour répondre à ta question.
Très pertinent. Autre chose, Max, que tu vois, des fails que tu peux peut-être partager ou d'autres outils pour aujourd'hui?
Dans les fails, j'ai pas des grands fails. Hein. Chez nous, la manière que ça fait partie de notre philosophie aussi d'y aller très de façon très itérative, là, baby steps. Donc, tu sais, il y a des petits fails par-ci par-là, mais tu sais, c'est créer des espèces de concepts rapidos ou rapidement créer un concept, je devrais dire en bon français, puis aussitôt que les résultats sont pas probants, d'arrêter puis de changer de projet. Je l'ai déjà dit souvent sur d'autres plateformes, là, mais en marketing, là, c'est pas une science exacte. La seule chose que je sais qui fonctionne bien, c'est de tester, d'être en mesure de quantifier ou du moins de voir rapidement c'est ce que ça apporte, ce que ça doit apporter ou non, de changer ou d'être assez flexible pour réajuster la stratégie. Un reset on the fly là, qu'on a connu là, dans notre grande équipe du Canadien de Montréal, là, pour ceux qui suivent, là, mais d'être en mesure de bien moduler ces stratégies-là puis pas mettre toutes ces œufs dans le même panier non plus. Donc, baby steps, des petites itérations, on essaye, on regarde ce que ça donne, on arrête. Au fil du temps, ben, c'est sûr qu'on en a parlé rapidement comme la dernière minute, là, mais l'ensemble de l'industrie doit changer aussi. T'sais, on regardait en 2014-2015 du banner advertising sur des sites qui étaient, c'était encore à la mode, là, mais aujourd'hui, c'est terminé. Il faut vraiment revoir nos stratégies, voir ce qui fonctionne bien. Puis je pense qu'on est mieux de mettre plus d'argent, plus de ressources sur des petites campagnes, je te dirais, ou mieux, plus personnalisées, mettre plus d'argent là-dessus pour être sûr qu'on augmente notre taux de conversion avec ces gens-là versus saupoudrer de l'argent at large, là, puis regarder les résultats c'est très difficile d'avoir du retour sur investissement avec une stratégie qui est, à mon sens, faite pour des grandes business en brand, là, par exemple, tu sais, des Microsoft de ce monde qui vont effectivement dépenser des millions et pratiquement des milliards en marketing, qui vont aller chercher beaucoup de brand awareness avec ça. On connaît la game. Mais pour des startups, mais pour des entreprises dans notre niveau à nous, faut être très conscient du dollar qu'on met en paid advertising, là. Et s'assurer que, bon, non seulement en termes de tooling, mais aussi en paid marketing, que chaque dollar qu'on investit nous rapporte. Et qui nous rapporte à court terme. Là. Ça aussi, c'est un autre point qui serait intéressant. Là, l'idée de depuis une dizaine d'années d'aller chercher du growth, là, la rule of 40 que tu connais, là, la loi d'or, là, d'aller chercher du growth à tout prix puis dire ben dans d'ici 3 à 5 ans sur le lifetime value de mon customer, je vais réussir à faire du cash avec. Très difficile dans les années qui viennent. Si vous n'êtes pas capable de générer du revenu à très court terme avec vos clients pour voir le modèle, parce que ça ne veut pas dire qu'il va être encore là d'ici 2-3 ans, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être un autre mindset à aller chercher, ça c'est sûr.
Max, très généreux, encore une fois, de ta part, je vais sortir une drôle d'expression, mais nous ouvrir le kimono, t'es toujours en mode très transparent, je pense que c'est une valeur qui est partagée dans l'ensemble de l'organisation chez vous.
Oui.
Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose que la communauté peut t'aider? Je sais que là, tu cherches un data scientist, tu vas aller sur le site de Devolution. On va mettre les notes dans le lien dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, Max, qu'on peut contribuer pour toi en retour?
On a plusieurs dossiers qui s'en viennent avec la presse, le Journal des Affaires, entre autres. C'est le mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité qui s'en vient, qui est à nos portes. On a plusieurs dossiers qui s'en viennent avec des médias plus traditionnels, disons. Donc, restez à l'affût si vous voulez aller voir un peu ce qu'on fait. Si vous voulez aller voir un peu plus ce qu'il y a en termes de cybersécurité chez nous, en under the hood là, ou dans le moteur, là. Il y a plusieurs dossiers plusieurs sujets qu'on aborde, entre autres avec David Hervieux, notre président fondateur ici, notre VP produit aussi qui vient partager plusieurs de nos bonnes pratiques au niveau de nos outils évidemment, mais ce qu'on a mis en place en cybersécurité chez Devolution. Donc allez lire ça, partagez ça dans vos réseaux, contactez-nous aussi si vous avez des questions. Puis moi je serais curieux, je lance tout le temps, j'essaie du moins dans nos podcasts avec toi Joe de tu sais, je suis curieux de voir qu'est-ce que les gens aiment écouter ou ce qu'ils voudraient entendre. C'est quoi le format aussi? Je respecte beaucoup le podcast que vous faites. Là, je trouve ça excellent ce que vous faites. J'écoute les épisodes, puis c'est très, très bon. Puis j'aimerais ça savoir un peu où est-ce que les gens veulent... tes auditeurs, en fait, c'est qu'est-ce qui les intéresse. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'on peut apporter de notre côté.
Fantastique. Tu restes disponible sur LinkedIn, toi aussi, j'imagine, pour un peu de feedback. Fantastique. Merci beaucoup, Max. Autre chose à rajouter ou c'est complet?
Je te souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt.
Fantastique, Max. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée à tous ceux qui nous écoutent et à bientôt. Voici ce que je retiens de ma discussion avec Maxime, qui est encore une fois extrêmement généreux. Si vous n'avez pas écouté les autres épisodes avec Max, allez voir dans les notes de l'épisode, allez écouter ces épisodes-là. Il est hallucinant à chaque fois dans le contenu qu'il nous livre. Donc, mon résumé, premièrement, chaque contexte de start-up est différent. Il faut être très attentif afin de choisir les bons outils. Deuxièmement, Salesforce semble être plus performant que HubSpot dans un cadre similaire à celui d'Evolution, de par son intégration poussée et de par les nombreux modules disponibles. Attention toutefois à la facture récurrente qui peut monter rapidement et devenir très, très, très coûteuse. Ensuite, HubSpot pourrait être également un bon prétendant pour ceux qui débutent. Peu importe l'outil implanté, il faut du temps et des bonnes personnes dédiées pour faire une bonne intégration et surtout une bonne optimisation en continu du système. Donc, à la taille de dévolution, soit environ 200 personnes, on parle de 2 à 3 personnes à temps plein pour l'optimisation des différents systèmes. Et je me répète, mais Max a été très généreux avec nous de lister tous les autres outils en dehors du stack de Salesforce, donc en espérant que cela a pu vous aider. Bon, voilà, merci encore une fois à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage, votre abonnement ou un commentaire. Donc, en ce sens, cet épisode vous a plu. Merci, s'il vous plaît, de prendre 30 secondes pour le partager à quelqu'un dans votre entourage ou à vous abonner ou à laisser un petit commentaire ou 5 étoiles positives dans votre plateforme de balado préférée. Donc, je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter chaque semaine avec plusieurs d'entre vous. Donc, encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.